Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, c'est un épisode un petit peu spécial qui n'est pas vraiment un épisode en fait, c'est une sorte d'édito comme j'en fais parfois pour les Patriotes, sauf que celui-là est public. J'ai parlé dans l'épisode juste qui vient d'être publié, qui n'est pas encore publié là au moment où j'enregistre, mais qui vient d'être publié quand vous écouterez cet édito, de ma volonté de parler un petit peu, d'expliquer un petit peu pourquoi je dois parler de politique aussi dans l'émission, si je veux qu'elle tienne debout, en fait. Et je vais diviser cet édito en trois petits morceaux. Le premier et le plus important, je crois, c'est expliquer un petit peu la ligne éditoriale et les raisons pour lesquelles il me semble vraiment important d'évoquer ces sujets quand je parle aussi de tech. La raison pour laquelle ça m'a semblé nécessaire, c'est que depuis quelques semaines, quelques mois, il y a des gens qui m'expriment avec parfois beaucoup de politesse et de gentillesse, parfois un petit peu moins, le fait qu'ils sont déçus de la quantité de politique qu'il y a dans l'émission. Et je pense que c'est souvent des gens qui sont d'un certain bord politique, ça a l'air d'être le cas, mais je crois que la question reste quand même, je comprends qu'on se la pose. Et j'aimerais faire cet édito non pas pour, comment dire, pour remettre les choses en question, mais pour les dire une bonne fois pour toutes et pour les mettre les choses à plat et exprimer clairement mes motivations, parce qu'elles sont quand même réfléchies. Je ne sais pas si la forme de cet édito sera aussi propre que quand je fais des longues réflexions pour préparer les émissions, mais en tout cas, j'espère que le fond sera compréhensible pour tous et pour toutes, et que quand je recevrai, parce que c'est arrivé, il y a eu plusieurs, ça ne se compte pas en centaines non plus, hein, mais il y en a eu quelques personnes qui m'ont envoyé ces messages, et du coup je pourrai les rediriger vers cet épisode, vers cet édito, pour qu'ils aient une explication et que je n'ai pas besoin de retaper toutes les explications à chaque fois. Donc la première partie de cet édito, dans la première partie de cet édito, j'aimerais vraiment vous expliquer pourquoi le fait de parler de politique aussi, hein, ça ne veut pas dire qu'on parle que de politique, il y a plein de sujets où la politique ne rentre pas en ligne de compte, mais le fait de parler aussi de politique est important parce que la ligne éditoriale de cette émission, ça a toujours été, ou en tout cas depuis très très longtemps, l'idée de faire comprendre aux auditeurs qui ne suivent pas la tech ou qui ne l'analysent pas avec beaucoup d'assiduité, de faire comprendre aux auditeurs en quoi la tech et les changements dans le monde de la tech influencent le reste de la société. Au départ, on parlait, comme je le dis souvent, d'iPhone et de gadgets et ce genre de choses. Mais très vite, à vrai dire, même ces éléments-là, il y avait les embryons de ce qui va influencer la société, parce qu'on le sait, l'avènement des smartphones notamment, mais pas que. Internet, les réseaux sociaux, etc., a changé beaucoup de choses dans la société. Et quand je dis la société, c'est en partie la politique, et donc, évidemment, ça joue un rôle important, mais il n'y a pas que ça. Il y a le commerce, il y a la communication, il y a plein d'éléments de ce type-là qui sont moins controversés, évidemment. Personne, je pense, ne va me reprocher de parler de commerce et de l'influence que va avoir le web sur les magasins. Maintenant, c'est un petit peu réglé, ou en tout cas, ça a pris une direction assez claire, mais la manière dont ces choses-là vont influencer l'existence de magasins physiques ou la vente de choses en physique, etc., etc. Et la politique, ça fait partie de ces choses qui sont influencées et qui influencent évidemment aussi la tech. Et alors, c'est des explications que j'ai déjà données dans les émissions, hein, mais comme je le disais, j'aimerais les... Et là, pour beaucoup d'entre vous, ces explications sont claires et suffisent, mais j'aimerais quand même les remettre à plat dans cet édito. Et donc, si je veux parler de ces sujets-là, je suis obligé d'expliquer le contexte des sujets connexes. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de tech sans cet aspect-là. Il est possible de parler de tech en parlant de produits tech uniquement. On voit notamment sur YouTube énormément de chaînes qui le font, et qui le font très très bien. Et d'ailleurs, je reçois régulièrement des invités qui sont dans cette optique-là sur leur chaîne YouTube. Je prendrai au hasard Jérôme, avec qui je fais des émissions depuis des années, Jérôme Kainborg de Nowtech, ou Pépé Garcia, que je reçois de temps en temps, qui sont des gens absolument formidables, qui font des chaînes absolument formidables et des chaînes que j'apprécie. Mais ce n'est pas ce que je veux faire avec cette émission. C'est-à-dire que si je faisais que des reviews de produits, si je parlais que, des derniers iPhone, des derniers téléphones Android, des dernières technologies télé, ce genre de choses, bah, ça pourrait faire une émission super intéressante aussi. Mais ce n'est pas le but du rendez-vous tech. Encore une fois, le rendez-vous tech, le but de cette émission, c'est d'aider la manière dont la tech, qui a une importance démesurée peut-être par rapport à d'autres composantes de nos sociétés, la manière dont la tech influence le monde. Et quand je parle, par exemple, je vais prendre un exemple au hasard qui n'est pas hyper controversé. Si je parle de services de streaming de musique, on ne peut pas parler de la manière dont ces services évoluent sans parler de la question du droit d'auteur, de la question des organismes en place qui gèrent le droit d'auteur, qui vont avoir plus ou moins de pouvoir dans l'industrie de la musique, qui vont influencer les services de streaming et qui vont avoir une relation avec les artistes eux-mêmes, les artistes qui vont ensuite peut-être court-circuiter certaines grosses organisations de publication, d'édition de musique en éditant les choses elles-mêmes. Donc, ces choses-là, ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire que quand je vais parler de Spotify, je pourrais vous dire « Ah, Spotify se lance dans le podcast. » Oh, OK. Bon, l'information s'arrête là. Ça, c'est de l'information brute, neutre, voilà. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe derrière ça, il faut que j'explique que là, les revenus de Spotify viennent de la musique, que ces revenus sont partagés avec les ayants droit, que les ayants droit en prennent une partie importante et que Spotify, pour pouvoir croître et même avoir une main sur leur destinée, ils cherchent d'autres sources de revenus et donc ils se lancent dans le podcast qui n'est pas tenu par les ayants droit dans le monde de la musique. Ça, c'est intéressant. Ça, on comprend les mécanismes du truc. On comprend pourquoi les choses évoluent dans ce sens-là et l'influence que ça pourrait avoir sur cette industrie, l'industrie de la musique ou l'industrie de l'entertainment audio dans l'avenir. La version 2, pour moi, est la version qui a de la valeur d'analyse, d'information, de compréhension. Et donc là, je prends l'exemple de la musique et du streaming. Mais c'est la même chose partout et c'est la même chose dans le domaine politique. Donc, quand on parle de réseaux sociaux, par exemple, au hasard, on ne peut pas parler de la manière dont ils influencent, de leur puissance et de leur force et de leur poids, sans parler de la manière dont ça influence la communication, notamment la communication du monde politique. Et du coup, je suis obligé de parler et d'analyser ces sujets aussi. Donc, je pense que c'était clair, encore une fois, pour la plupart d'entre vous. J'espère que ceux qui étaient un petit peu surpris ou qui tiquaient un petit peu quand je parlais de politique comprendront pourquoi je le fais et pourquoi je suis obligé de couvrir ces domaines aussi, d'essayer de les comprendre, de les analyser, de donner mon avis parfois, évidemment. Et vous comprenez bien que mon avis n'est que mon avis, mais il est important dans mon analyse de vous donner mes opinions. Enfin, la manière dont je comprends, c'est même pas une question d'opinion, c'est la manière dont je comprends les évolutions de ces domaines. Donc, ça, c'est la première partie. Moi, je ne fais pas un podcast de review de produits tech, c'est pas le but de l'émission. Et si je sors de le domaine spécifique des reviews, je suis obligé de donner du contexte, et parfois, le contexte, ça amène à parler de sujets politiques. Forcément. Si je ne fais pas ça, l'émission ne tient pas, n'atteint pas son but, et même elle n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que je vais être honnête avec vous, je n'ai ni le temps ni les moyens de passer en revue et d'aller en voyage pour passer des trucs en revue. Enfin, ce n'est pas de passer en revue, d'acheter des produits, de passer du temps à les utiliser. Ce n'est pas le but, ce n'est pas ce que je veux faire, ce n'est pas ce que j'aime faire, et ce n'est pas la valeur ajoutée qu'amène cette émission. Ce à quoi j'ajouterais d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'idée de faire de la review de produits. Il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de sites, il y a plein de choses comme ça. Dans le domaine des podcasts, je crois qu'il n'y a pas énormément de gens qui font de l'analyse de l'industrie tech et de son influence sur le reste de la société. Donc, pour moi, il y a une vraie valeur ajoutée, une valeur ajoutée d'ailleurs que certains patriotes soutiennent activement et ce que j'apprécie beaucoup, mais il y a une vraie valeur ajoutée qui est là. Bon, ok, 10 minutes sur ce sujet, j'espère que mon raisonnement est clair. La plupart d'entre vous, je pense, peut arrêter d'écouter. Si vous êtes satisfait de cette explication, je pense que la suite ne vous apportera pas grand-chose. Mais je vais continuer un petit peu pour parler d'orientation politique et clarifier sans tabou, sans honte, mon positionnement politique personnel et ensuite pourquoi je suis en opposition à certains positionnements très spécifiques. Parce que c'est une chose que je n'aime pas faire traditionnellement et j'en parlerai dans un instant. Moi, je n'aime pas mettre une sorte de coup d'arrêt aux discussions. Vous savez que moi, je suis l'avocat du diable, que j'adore entendre, et que ce n'est pas juste que j'adore, que je pense qu'il est important d'entendre les arguments, les différents arguments de différents côtés, de différents camps dans une discussion, pour savoir vraiment, même pour se forcer un petit peu à essayer de comprendre pourquoi les gens peuvent avoir une opinion, une analyse, des conclusions différentes. Sur certains points, c'est moins le cas, et je vais y venir tout à l'heure. Mais d'abord, encore une fois, sans tabou, mon positionnement politique, qui est fluide, hein, qui évolue évidemment au cours des années. Je pense que c'est normal et c'est sain. On n'est pas tenu de rester pendant 20 ans, 30 ans exactement sur les mêmes positions politiques, mais, ou sur quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. On peut changer de goût culinaire, par exemple. C'est très bien si on évolue sur ce point aussi. Mais vous vous souvenez, peut-être juste en préambule, vous vous souvenez que quand j'ai lancé le Patreon, j'ai parlé un peu d'argent. Et je l'ai fait, là encore, sans honte, alors que c'est un domaine qui est un petit peu tabou, souvent, je crois en particulier dans la société française. Et moi, j'ai essayé de le faire naturellement, sans tourner autour du pot. Je l'ai dit en lançant le Patreon, j'aimerais vivre de cette passion. Rester rigoureux dans mon travail, mais vivre de ce métier. Et pour ça, je veux monétiser mon activité. Et sans refaire toute la question là-dessus, c'est une chose qui, à mon sens, manque un petit peu chez les créateurs de contenu, peut-être un petit peu plus en France qu'ailleurs. Il faut rester authentique. Je crois que c'est évidemment important parce que c'est pour ça que les auditeurs ou les spectateurs vont nous soutenir. C'est parce que pour la valeur qu'on apporte et puis pour la personne qu'on est. Donc, c'est très important. Mais je pense qu'il faut aussi ne pas avoir honte de faire les choses clairement pour en vivre. Et le fait, par exemple, que je me sois lancé dans la monétisation avec Patreon, que beaucoup d'entre vous ont soutenu d'ailleurs, le fait que j'ai lancé la publicité, je l'ai beaucoup expliqué il y a 3 ou 4 ans quand je l'ai fait, et c'est quelque chose d'important de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, de pouvoir financer une petite partie. Alors moi, je ne suis pas en train de monter une grande start-up, hein, mais de financer les gens, de financer le paiement de personnes qui travaillent avec moi, avec aujourd'hui, au niveau de j'ai un certain nombre de personnes que je rémunère pour leur participation à la production de l'émission. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai toujours abordées avec beaucoup d'ouverture et beaucoup de d'honnêteté. Sur la question politique, je crois qu'il est possible également de dire les choses sans avoir honte, sans se poser en posture défensive ou agressive ou ce genre de choses. Il est important même dans notre société qu'on puisse parler ouvertement et sans que ça ça tombe dans un conflit immédiatement de nos idées politiques, dans certains contextes, évidemment. Moi, je suis plutôt au centre, plutôt centriste, et j'ai tendance à dire je suis formellement ni de droite ni de gauche. Et je suis sûr que vous entendez ça, je rigole parce que je sais que vous entendez, une certaine partie d'entre vous va entendre ça et va se dire si on n'est ni de droite ni de gauche, c'est qu'on est de droite. Et c'est une formule qui est brillante parce qu'elle est hyper facile à retenir, elle est drôle, elle est mordante. Et du coup, elle a tendance à être acceptée un petit peu comme sans qu'on la questionne vraiment. Et on dit, les gens qui sont au centre, c'est les gens qui sont de droite, en fait, et qui se maquillent, qui se mascaradent, machin. La manière dont moi, je vois les choses, c'est que ni droite ni de gauche, c'est plutôt qu'on n'a pas, on n'est pas lié à une idéologie ou un parti par principe, mais qu'on va aller voir des choses intéressantes dans tous les camps, et droite et gauche, c'est même un petit peu artificiel, mais formellement, c'est ce qui se passe, mais on va aller voir un petit peu dans tous les camps et peut-être adopter des idées qui sont d'un côté et de l'autre. Et c'est une position, je vais vous faire pleurer un petit peu, c'est une position qui n'est pas facile, parce que quand on a des idées de différents camps, on a toujours une possibilité pour les gens d'un camp de vous dire que vous êtes de l'autre. C'est-à-dire que quand on est, entre guillemets, ni de droite ni de gauche, c'est-à-dire qu'on a un petit peu des idées de droite et un petit peu des idées de gauche, et du coup, les gens de gauche vont voir vos idées de droite, je mets des guillemets, hein, parce que, bon, mais les gens de gauche vont voir vos idées de droite et vous dites « Ah ben, c'est quelqu'un de droite », et pareil, les gens de droite vont voir vos idées, entre guillemets, de gauche et vont vous reprocher d'être de gauche. Et je crois que c'est une vision qui est évidemment caricaturale, parce que quand on dit le plutôt du centre, et je ne sais pas si c'est valide de dire ni droite ni de gauche, mais plutôt du centre, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont formellement plutôt à droite et formellement plutôt à gauche, qui sont en fait pas du tout dans cette optique assez partisane d'être plus ou moins systématiquement opposé aux idées du camp d'en face. Je crois qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui sont pas tout à fait à l'aise avec les idées qui sont de ceux qui sont vraiment plus à gauche, et il y a des gens à droite qui sont pas tout à fait à l'aise avec les idées de ceux qui sont plus à droite, et je parle même pas des extrêmes, mais je vais vous donner quelques exemples, hein, et encore une fois, c'est des choses qui me semblent... certains d'entre vous vont dire « Oula, il parle de politique, c'est pas... » Moi, je pense qu'il est important de pouvoir en parler comme ça, de manière assez ouverte, mais on trouve souvent, c'est quelques exemples, mais on trouve souvent, par exemple, à gauche, l'idée que le nucléaire est problématique et qu'on veut sortir du nucléaire, alors que beaucoup de gens pensent que c'est une solution au plus gros problème qu'on a aujourd'hui, qui est celui du réchauffement climatique, et que il faut être pragmatique, et donc on va il faut utiliser cette solution. Et c'est un vrai problème dans certains groupes de gauche qu'ils n'acceptent pas, parce qu'on se met dans une position qui est beaucoup plus difficile. Il y a la question, par exemple, de l'Europe, qui pour moi est très importante. Entre parenthèses, moi, je suis, pour ceux qui disent plutôt droite, plutôt de gauche, je suis plutôt aligné sur le modèle nordique, comme je le dis parfois, qui est un modèle plutôt centre, qui est considéré comme à la fois gauche et à la fois droite par certains vus de France. Mais c'est des choses où on va avoir des protections sociales fortes et en même temps, peut-être un petit peu plus de facilité dans l'entrepreneuriat qu'on ne va avoir chez nous. Donc, il y a vraiment cette... Disons que si vous pensez que le modèle nordique est inacceptable, je ne sais pas d'où vous sortez, quoi, parce que c'est le modèle qui fonctionne le mieux aujourd'hui dans le monde, qui produit les résultats les plus satisfaisants, même si, évidemment, ce n'est pas parfait, mais c'est les résultats plutôt satisfaisants. Bref. Il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément à gauche dans certains domaines. Il y a des choses qui me paraissent adaptées. Il y a des choses à droite qui ne me plaisent pas non plus. Je trouve, par exemple, que... de la même manière qu'on dit, si t'es ni de droite ni de gauche, c'est que t'es de droite. Il y a une sorte de cri de ralliement qu'on retrouve même dans des partis qui sont traditionnellement un petit peu plus proches du centre à droite. C'est cette idée de, du combat contre le wokisme, qui est un terme que j'aime pas tellement parce que l'idée de, à la base, être woke, c'est, ça vient de l'anglais évidemment, ça veut dire être éveillé. Et éveillé à quoi ? Éveillé aux inégalités qu'on constate sur les questions de racisme et de sexisme notamment. Et donc, au départ, c'est simplement le fait qu'un certain nombre de personnes pensaient peut-être que les questions du racisme étaient plus ou moins réglées. Moi, je me souviens de l'élection de Barack Obama. Et beaucoup d'entre nous se disaient « Ah bon, bah, si un président noir, enfin un homme noir peut devenir président, ou un noir tout court peut devenir président, bah, ça veut dire que quand même le racisme doit être en bonne voie de résolution. » Et en réalité, on s'est rendu compte avec différentes affaires, différents problèmes, que bah, ça ne semblait pas être le cas. Et le fait de s'éveiller à cette chose-là, les questions de racisme, de sexisme, de harcèlement, etc., eh ben, c'est simplement ça, le mouvement woke, c'est simplement se dire « Ah bah merde, en fait, on n'a pas réglé le problème du racisme. » Et il a été caricaturé, il a été trituré, il a été transformé pour, là encore, un petit peu comme « c'est que vous êtes de droite », à offrir une cible facile, une sorte de cri de ralliement un petit peu manipulateur aux personnes qui sont plutôt à droite de l'échiquier. Et je trouve ça dommage parce que, en réalité, si on pose le problème tel qu'il est réellement présenté, eh ben, si on part du principe que le racisme n'est pas entièrement réglé, il y a des problèmes de sexisme dans la société, les femmes sont parfois soumises à des traitements injustes qui sont dus vraisemblablement à la structure sociale systémique qui est en place, je crois qu'il y a beaucoup de gens à droite qui seront d'accord aussi pour dire que tout le problème du racisme n'est pas réglé, il y a encore des questions de sexisme. Et du coup, après, on peut se dire « Ok, jusqu'où ça va ? Comment est-ce qu'on va régler ces problèmes ?» Oui, mais si on part avec ce label woke et une sorte de cri de ralliement d'étendard et dire « Oh, c'est woke, donc c'est anti-truc, anti-tout », eh bien oui, ça coupe la discussion. Donc, à la fois à droite et à gauche, je trouve qu'il y a certains excès, et c'est évident, qui sont malheureux parce que ça nous empêche de parler des vrais problèmes. Et il y a des solutions à réfléchir dans tous ces différents domaines, à droite et à gauche. Et c'est pour ça que moi, mon positionnement, c'est d'éviter la posture, d'essayer en tout cas, c'est ce que j'essaye, hein, je vous parle très ouvertement, très honnêtement de ce que j'essaye de faire, j'y arrive pas forcément, mais c'est essayer d'éviter la posture et d'essayer de m'intéresser aux idées. Et effectivement, quand je vous disais mes idées ont évolué, elles ont pu évoluer dans un sens ou dans l'autre, sur certains domaines. Je suis, par exemple, je vous parlais des questions d'argent et d'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a des idées qui sont a priori, comment dire, justifiées ou bien intentionnées, notamment à gauche, et qui ont des effets négatifs, notamment la complexité de l'emploi. J'hésite à le dire parce que je sais qu'on va me tomber dessus. Je crois qu'il y a des questions à se poser là-dessus. Encore une fois, le modèle nordique, les choses sont pas... Il y a beaucoup de protection sociale, mais les choses ne sont pas aussi contraignantes dans nos sociétés, je dis nos sociétés dans le Nord. Et pourtant, la protection sociale est importante. Donc, bon, il y a ces choses-là, il y aurait plein de choses dont on peut discuter, mais le sujet n'est pas de trouver des solutions à tous nos problèmes politiques, le sujet est d'essayer de vous expliquer en quoi j'essaye d'être raisonnable, ouvert, dans mon positionnement politique. Et du coup, ça m'amène à la dernière partie de ce petit édito, qui est, je pense, en réalité, le cœur du mécontentement de certains d'entre vous, et qui est mon opposition à certains mouvements politiques. Je vous disais, j'aime être l'avocat du diable, j'aime écouter ce que disent les gens, et certains d'entre vous vont me dire « Ah bah voilà, mais du coup, pourquoi est-ce que nous, tu ne nous écoutes pas ?» Et je pense que la plupart de ces personnes-là vont être dans des mouvements qui sont proches de, des mouvements de Trump aux États-Unis et peut-être de mouvements qui sont proches de celui-là dans notre pays ou dans d'autres pays. Le truc, c'est que j'ai longtemps, et je le fais encore, je crois, j'essaye, je vais vous parler d'une émission que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le Phileas Club, que j'ai interrompu il y a un an pour différentes raisons. L'une d'entre elles était le fait que j'avais plus le temps avec mes deux enfants. Une autre, c'était que j'étais un petit peu interrogatif sur le but et le résultat de ma démarche avec l'émission. Mais c'était une émission où j'invitais des gens de plein de pays, de cultures, de mouvements politiques différents, et on essayait de discuter, d'avoir un dialogue là où... Enfin, deux choses. D'une part, d'avoir des news, des infos qui sortaient de notre cadre habituel. Donc, par exemple, si je recevais des gens d'Arabie Saoudite, il y a longtemps, c'était peut-être un petit peu avant que les choses ne soient plus dures là-bas, encore plus dures, mais de j'en sais rien, moi, de Thaïlande, du Mexique, bien sûr des États-Unis et d'Europe, hein, mais aussi d'autres pays comme ça, eh bien, ça nous ouvrait les horizons. Moi, je suis profondément européen, européaniste. C'est l'une des choses importantes pour moi dans mon positionnement politique aussi. Je crois très sincèrement que une unité en Europe est importante pour pouvoir faire valoir notre vision de la société et du monde auprès d'autres grandes puissances comme les États-Unis ou la Chine, hein, très clairement, parce que même dans la tech, sur Internet, il y a plusieurs visions qui sont en concurrence aujourd'hui. C'est une sorte de laisser-faire important aux États-Unis, même si les choses évoluent, et puis un contrôle drastique en Asie, spécifiquement en Chine, mais pas uniquement. Et puis nous, on essaye de faire valoir une troisième voie qu'il est important d'avoir, et on ne peut pas, chacun des pays européens individuellement ne peut pas faire valoir sa vision, et sa vision, ça veut dire son existence, hein, tout simplement, si on n'est pas unifié. Et bien sûr que l'Europe, c'est compliqué, c'est difficile, et beaucoup d'entre vous sont d'accord que c'est important, mais pour moi, c'est plus qu'important, c'est essentiel. Bref, je reviens au mouvement de Donald Trump. Donc pendant longtemps, j'ai fait cette émission dont je suis très très fier, le Phileas Club, et j'aurais aimé même faire une version française. Beaucoup de gens m'en ont parlé, j'aurais voulu le faire, j'ai pas eu le temps ni l'énergie pour être honnête. Mais donc je pense qu'il est important de discuter avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et je me suis fait des amis dans ces camps-là, avec lesquels on discute beaucoup et on a longtemps discuté. Certains, bon, c'est un petit peu éloigné aujourd'hui, mais certains, je les considère comme des gens avec lesquels je m'entends très bien. À vrai dire, non, c'est pas vrai. La plupart, c'est des gens avec lesquels je m'entends bien. C'est juste qu'on n'est pas d'accord sur certaines idées. Mais là où les choses ont vraiment changé, c'est... Alors, très clairement, je ne suis pas d'accord avec les idées de Trump. Et je pense qu'elles sont problématiques, dangereuses, et c'est quelque chose qui me pose de sérieux problèmes. Mais là où les choses ont vraiment basculé, c'est après l'élection de 2018. Et Donald Trump et son mouvement... Vous noterez que je parle beaucoup des États-Unis, je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose, même s'il y a des problématiques importantes dans nos pays aussi. La chose, et vous remarquerez que quand je parle de ces sujets dans l'émission, et quand on parle ces derniers temps de Elon Musk et de Twitter, je parle beaucoup de l'influence sur la politique américaine et du mouvement de Donald Trump. Parce que c'est pour moi ça qui est vraiment problématique, et ce qui se passe aux États-Unis influence le reste du monde, évidemment. Mais donc, là où ça a basculé pour moi avec Donald Trump, là où j'étais plus simplement en profond désaccord avec la politique menée, mais pour le coup, véritablement opposé et, comment dire, j'arrive pas à trouver les mots juste en restant, en me contenant, mais je pense qu'il y avait un aspect dangereux pour la démocratie, c'est quand il a commencé à nier les résultats de l'élection de 2018. Et j'en parle de temps en temps dans l'émission, mais je veux que les choses soient extrêmement claires aujourd'hui. Cette attitude est le cœur du plus grand danger pour la démocratie. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus du, du cadre démocratique dans lequel on peut discuter. C'est une attaque violente contre la démocratie. On est plus dans le débat d'idées quand on est dans ce... Même dans le débat d'idées qu'on peut trouver objectionable et amoral ou ce genre de choses. Là, on est dans l'attaque contre... d'une attaque violente contre un système qui peut désintégrer la démocratie et la République. Et certains d'entre vous vont penser que j'exagère. Vous ne prenez pas la mesure de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Donald Trump a nié les résultats de l'élection de 2018. Et quand on commence à ne pas accepter le vote du peuple, dans un système qui est de manière plus que prouvable fiable, eh bien, on attaque la démocratie elle-même. Et ça, c'est encore plus que d'autres choses inacceptables. Et on arrive à un point où on ne peut pas ne pas condamner cette mouvance. Si il avait été dans cette mouvance seul, isolé et représenté un petit parti aux États-Unis qui n'a pas de poids important sur l'échiquier politique, on aurait pu le laisser passer. Il y a plein de personnalités un petit peu excentriques dans tous les pays qui sont dans des mouvements pas vraiment acceptables, mais auxquels on ne donne pas plus de voix qu'ils n'ont. En l'occurrence, Trump, jusqu'à la semaine dernière, et on va voir comment ça va évoluer, parce que clairement, il y a eu un échec des Républicains aux élections de mi-mandat, mais Trump avait un poids démesuré sur le Parti républicain. Et donc, il était une force politique majeure du pays, une force politique qui entraînait dans son sillage de nombreux responsables politiques, des élus, qui niaient le résultat d'élections. Et encore une fois, si on commence à nier le résultat des élections, on détricote et on détruit un système qui a pris des centaines d'années à être construit, qui est relativement solide, mais qu'il est possible de faire tomber si on s'attaque à son cœur, à ce qu'il constitue. Et ce qui constitue la base de notre démocratie, c'est la confiance dans le résultat des élections. C'est un péché capital, le fait de ne pas accepter le résultat des élections. Et Trump l'a non seulement fait, il continue à le faire, il a entraîné de nombreux responsables. Donc, c'est indicible la gravité de l'attaque en question. Et donc, la raison pour laquelle je le dis aussi fortement, c'est que, de la même manière qu'on ne peut pas ne pas parler, je ne sais pas, du réchauffement climatique, on peut pas, il y a plein de choses qu'on ne peut pas envisager sans parler du réchauffement climatique, sans l'évoquer dans la société aujourd'hui, dans la tech et dans d'autres choses, eh ben, on ne peut pas parler de politique aux États-Unis sans parler de ce contexte-là qui est essentiel. Et on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans parler de l'influence qu'ils ont sur la politique et de l'influence qu'a la politique sur eux. On ne peut pas parler, par exemple, je ne vais même pas évoquer le cas de Twitter et de Elon Musk spécifiquement, mais on ne peut pas parler, par exemple, de la Section 230, donc la loi qui protège les hébergeurs de contenu, les fournisseurs de services, de la responsabilité de ce que postent leurs utilisateurs. C'est-à-dire que Section 230, c'est un morceau de la loi aux États-Unis qui dit que si vous hébergez un forum, vous n'êtes pas pénalement responsable de ce que va dire quelqu'un sur ce forum et que vous êtes tenu de supprimer des contenus qui vous sont signalés. Ça, c'est la manière dont ça fonctionne dans différents pays, mais tenu de supprimer les contenus illégaux qui vous sont signalés. Mais si vous n'en aviez pas connaissance, voilà, vous n'êtes pas responsable. Sinon, si vous êtes responsable de tout, vous ne pouvez simplement pas avoir de forum ou de réseaux sociaux, etc. Cette Section 230 est attaquée par différents bords politiques américains pour différentes raisons. Mais on ne peut pas parler de ça sans parler du fait qu'en partie, il y a un mécontentement de la droite américaine qui trouve qu'elle est plus modérée que la gauche. Et cette idée, là encore, on est obligé de tomber dans l'analyse politique. On voit la Gmail qui a été mis en question par le Parti républicain pendant les élections parce qu'ils classifiaient leurs mails de campagne comme du spam. Sauf que la raison... Et on vient au cœur de cette question dont j'ai déjà parlé, hein, de cette question des réseaux sociaux et des problèmes qu'ont les républicains avec la tech, c'est qu'ils estiment être moins bien traités pour des questions politiques que leur opposition. Et les analyses ont montré à de nombreuses reprises que ce n'était pas pour leur position qu'ils étaient peut-être plus modérés ou considérés comme du spam. C'était pour la nature des choses qui sont exprimées ou du format des emails qui sont envoyés, qui sont, selon les règles qui étaient établies depuis très longtemps, elles n'ont pas changé ces règles, qui sont considérées comme soit à modérer, soit à placer en spam, ce genre de choses. Et quand on va parler de lois qui sont proposées au Texas ou en Floride, qui veulent imposer aux réseaux sociaux de ne pas modérer les propos de leurs utilisateurs, ce qui est impraticable, on est obligé d'expliquer pourquoi. On ne peut pas juste dire « Ah ben, il y a une loi au Texas qui a été proposée qui impose aux réseaux sociaux de ne pas modérer leur contenu. » Mais d'où ? Pourquoi ? Comment ? D'où ça sort ? On ne peut pas ne pas expliquer que ça vient d'un mouvement du Parti républicain qui estime qu'ils sont trop modérés et que du coup, ils voudraient que personne ne puisse être modéré pour se protéger. Et bien sûr, on ne peut pas parler de ça sans parler des raisons pour lesquelles les contenus sont modérés. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre vous, même, je crois, à droite, qui va comprendre pourquoi je suis obligé de parler de ces choses-là. Il y a une petite partie d'entre vous qui va peut-être se dire « Non, mais il faut pouvoir évoquer ces choses-là. Pourquoi est-ce que tu condamnes le mouvement de Trump, c'est un ancien président, un responsable politique comme les autres, il devrait pouvoir être entendu, etc. » Et là, on en vient à l'autre cœur du problème, qui est que, malheureusement, il y a certaines discussions qu'il devient impossible d'avoir. Qui devient impossible d'avoir parce qu'elles ne sont pas conçues pour être un échange d'idées, elles sont conçues pour semer plus de chaos. Semer plus de... exposer des idées qui sont, pour moi, pas vraiment acceptables. Et dans la société, hein, il y a des questions... En France, par exemple, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, des choses qui sont illégales, des questions de racisme, de sexisme, d'incitation à la haine. Et voilà. Et si c'est illégal et c'est amoral, ben, on ne peut plus en discuter. Et Trump, le mouvement de Trump, s'inscrit dans cette mouvance, s'inscrit dans une... mouvance politique qui veut pouvoir diffuser ces idées-là. Et la société, que ce soit au niveau politique ou même au niveau social, des sociétés qui gèrent ces contenus et de la pression des publicitaires et de la pression des électeurs et des acheteurs, décide « Ben non, désolé, nous, on ne veut pas avoir ce type de contenu disponible facilement. » Au-delà du fait que ça soit illégal en France, même ailleurs, il y a des mouvements de différentes natures qui font que, ben, on n'en veut pas. Et du coup, le fait de vouloir les pousser malgré tout, ce n'est pas un mouvement qui veut avoir les deux côtés d'une discussion. Parce que là, il n'y a pas de côté. Je pousse le truc un petit peu plus loin... Et ce n'est pas beaucoup plus loin, mais je le pousse un petit peu parce qu'on est dans un contexte politique. Si on a une personne si on a un nazi qui va venir dire « Ah ben moi, je ne comprends pas pourquoi on ne m'écoute pas », là, je pense que même les gens qui sont dans le mouvement de Trump, encore qu'il y a des suprémacistes blancs, etc., qui sont dans le mouvement, donc peut-être qu'eux seraient contents de discuter, mais la plupart d'entre vous diraient bah oui, un nazi, on ne va pas lui ouvrir une tribune et commencer à débattre de est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort. Non, cette question a été réglée. Cette question a été décidée par la société et par la décence. Et on a décidé que, ben non, avec vous, monsieur, je suis désolé, on ne discute pas. Et on est dans une situation qui est adjacente, là. L'idée qu'il faudrait donner une tribune à Trump pour nier Là, je ne parle même pas des questions de racisme ou de sexisme, qui sont évidemment problématiques, mais pour nier les résultats de l'élection de 2018, bah non, je suis désolé, ça ne colle pas. Moi, je suis l'avocat du diable, je discute avec les gens qui sont d'un autre avis, autant que possible, mais j'ai des limites. Si on va venir m'expliquer qu'il faut essayer de comprendre Trump dans son mouvement, dans ses idées-là en tout cas, bah non, il ne faut pas. Il n'y a pas de discussion à avoir. Si on va... Tout ça, ça fait partie du contexte. On ne peut pas parler de Truth Social, on ne peut pas parler de Gab, de Parler, sans comprendre ce contexte-là. Pourquoi est-ce que ce mouvement politique est contraint d'aller sur d'autres réseaux? Pourquoi est-ce que les discussions à répétition du Parti républicain vont toujours dans ce sens-là? On ne peut pas ne pas l'expliquer. Et je ne peux pas expliquer tout ça sans expliquer en quoi le mouvement de Trump est problématique. Donc, à partir de là, soit vous faites partie des gens qui comprennent ma démarche, admettons même que vous n'êtes pas d'accord avec cette démarche, vous la comprenez, et on peut continuer à discuter, soit vous faites partie des gens qui disent « Non, 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 il faudrait qu'on continue à exposer les idées de Donald Trump et de ce mouvement », et à ce moment, je ne sais pas quoi vous dire, non, je ne vais pas le faire. Donc, on ne peut plus avancer plus loin. C'est rare et c'est dramatique pour moi parce que je suis profondément convaincu qu'il faut continuer à discuter autant que c'est possible. Et je vis ça comme un échec quand c'est plus possible. Mais il y a des moments où c'est plus possible. J'ai poussé très loin souvent et je continue à le faire. Mais il y a des fois, je dois dire, bon bah, je suis désolé, là, ça va pas continuer, quoi. Et l'idée que... je vais continuer à faire mon émission sur ces principes que j'ai établis pendant là presque trois quarts d'heure, qui j'espère vous auront intéressé, d'ailleurs, mais sur ces principes que j'ai établis pendant trois quarts d'heure. Et l'une des manières dont mon positionnement a évolué et dont je parle parfois dans l'émission, c'est sur justement cette exposition des idées. Pendant longtemps, on se disait, bon, bah, on va entendre tout sur Internet et donc on va pouvoir voir ces idées problématiques et on va les contraindre par la discussion et la logique. Et du coup, elles vont battre en retraite et elles vont être moins diffusées. Et on a constaté, à maintes et maintes reprises, qu'en réalité, non. C'est pas ce qui se produit. L'observation empirique démontre scientifiquement que quand ces idées sont simplement exposées, eh bien, elles gagnent du terrain. Et si on autorisait, je reprends mon exemple extrême, si on autorisait les partis nazis à exposer leurs idées, elles ne seraient pas naturellement combattues, mais elles gagneraient du terrain. Et elle serait diffusée. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on constate. Des groupes de ce type-là peuvent convaincre et on arrive à des extrêmes comme l'attaque du 6 janvier qui a été, au Parlement américain. Je parle beaucoup des États-Unis parce que c'est de ça qu'on parle en réalité. Ça s'applique moins dans nos pays, même si certains éléments, évidemment, sont applicables aussi. Mais l'attaque du 6 janvier, l'attaque dans la maison de Nancy Pelosi sur son mari, elle n'était pas là, c'était une attaque, un assassin qui a voulu venir la tuer. Donc, ça a une conséquence grave sur la manière dont évolue notre société. Et donc, après avoir pensé pendant longtemps qu'on pouvait parler de tout ça et discuter et combattre ses idées sur le terrain, eh bien, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, je pense que, étant donné que ça ne fait que les renforcer, eh ben, il y a des limites. Et au-delà de ces limites, moi, je les regarde, je les comprends, je les analyse, je les balaye pas d'un revers de la main par principe. Donald Trump et ses partisans, je leur ai parlé pendant très longtemps. J'ai observé ce qui s'est passé aux États-Unis, j'ai lu, regardé, discuté, encore une fois, le Phileas Club en faisait partie de cette démarche. Et aujourd'hui, ma conclusion, c'est que bah, on est au-delà de cette limite avec ce mouvement-là. Donc, c'est pour ça que j'arrive à cette décision. Et le fait de ne pas le dire, Je conclurai avec ça. C'est encore une fois une évidence pour beaucoup, mais certains d'entre vous ont peut-être, apprécieront peut-être la clarification encore une fois. Le fait de ne pas le dire, c'est une décision politique aussi. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais tu parles trop de politique, il faudrait ne pas parler de politique ». Le fait de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles Section 230, c'est problématique, le filtre de Gmail est problématique pour certains, l'existence de Truth Social, pourquoi elle est comme ça, le fait de simplement dire « Donald Trump a décidé de créer son propre réseau social, nous verrons ce que ça donne », c'est une décision politique. C'est le fait de cacher une partie du contexte pour des motivations politiques. Donc, ça ne tient pas dans une émission qui essaye de vous faire comprendre le contexte. Donc, je crois que... J'avais une dernière chose à ajouter, mais elle m'échappe. J'espère que j'aurai réussi à donner suffisamment d'explications sur... tout ce que je fais et pourquoi je le fais. J'espère aussi que certains d'entre vous auront compris, peut-être que vous étiez hésitant, mais auront compris pourquoi je fais les choses de cette manière. Et j'irai jusqu'à dire que si certains d'entre vous sont alignés avec le mouvement de Donald Trump dans le fait de nier le résultat des élections, je pense que ou sur d'autres choses, je pense qu'il faudrait vraiment s'interroger sur la diversité des sources d'information, sur la manière dont vous comprenez le contexte de ces sujets. Et peut-être que le fait d'avoir le rendez-vous tech, c'est un début pour ça. Et je sais que certains d'entre vous ne seront pas contents et seront simplement... pas d'accord avec ma vision des choses, et je vous en veux pas plus que ça. Je pense que vous faites fausse route, mais je vous en veux pas plus que ça. Je vous demanderai simplement de respecter la manière dont je fais et je vois les choses. Bref, si vous êtes encore là, merci, bravo d'avoir tenu plus de 45 minutes sur ces sujets qui sont, je pense, importants, hein, parce que c'est des problèmes qu'on se posait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, des questions qu'on se posait pas, mais je suis content d'avoir pu passer quelques temps à vous expliquer le pourquoi du comment de ma vision de l'émission. Et c'est une vision qui me tient à cœur. Et c'est une vision qui n'est pas construite à la va-vite. C'est une question qui est motivée et qui me paraît... oui, qui me paraît importante, mais plus que ça encore, qui me tient à cœur, qui est réfléchi, qui est vraiment réfléchi. Et je fais les choses. Alors parfois, je vais peut-être faire des trucs un petit peu comme ça, parce que je fais des heures d'émission chaque semaine, et parfois, je vais peut-être dire une connerie, mais qui est une manière de faire les choses dans la mesure, malgré tout. Dans la mesure et dans la... dans une ligne qui est, j'espère, positive. Je disais qu'il y a des choses néfastes dans certains aspects de certains comportements de certains. J'espère que la manière dont je fais les choses est positive et mène à quoi ? Mène à... plus de compréhension dans la société, mène à plus de justesse, ce qui mène ensuite à plus de justice. Et la justesse, c'est quelque chose qui m'importe. Le fait de comprendre le contexte, bon, vous le savez parce que vous écoutez les émissions, comprendre le contexte, ne pas s'accrocher à des idées pour le principe, faire évoluer ses positions, etc. Et c'est une voie qui est, pour moi, j'espère... juste dans le sens de dans la justesse, et peut-être la justesse amène à la justice, de la même manière que, fear leads to anger, anger leads to suffering, la justesse mène à la justice, il en faut un autre avant. Qu'est-ce qui mène à la justesse ? La mesure mène à la justesse mène à la justice. Voilà. Ça sera la conclusion de cet édito. D'habitude, ils sont moins longs hein, quand je les fais pour les Patriotes. Mais là, c'était un sujet complexe et long à traiter. D'habitude, on est à quoi ? 10 minutes, un quart d'heure. Là, c'est vraiment beaucoup plus. Si vous êtes arrivé au bout, on va se faire un petit mot de passe pour que vous puissiez me dire que vous êtes arrivé au bout. Bah, le mot de passe, c'est « La justesse mène à la justice ». Voilà, on va dire ça comme ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord, par exemple, sur le Discord ou sur les réseaux sociaux ou partout, pour me dire ce que vous avez pensé de ce long exposé sur mes idées en ce qui concerne la politique dans la tech. La politique dans la tech qui est un des éléments nombreux qui composent l'émission. Et évidemment, ce n'est pas le seul. Hein. Je ne parle pas tout le temps de politique non plus, il ne faut pas déconner. Même si ces derniers temps, il y avait Musk un petit peu partout. Et donc, c'était forcément inévitable. Bref, merci à tous, merci à toutes. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.